Archéo, le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité au Musée Fabre, le jeudi sur Divergence FM.
Les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfouies et enfouies.
Une antiquité sportive sera le thème de cette 10e saison.
Stéphane Monnet, directeur de recherche au CNRS, est rattaché à l'unité mixte de recherche d'archéologie des sociétés méditerranéennes et au LABEX Archimède, vous propose cette conférence sur le thème « Les mystères du puits antique de Loribel de Pézenas ».
Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus nombreux donc, pour cette conférence de Stéphane Monnet. Stéphane est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes, donc qui est une unité mixte de recherche CNRS, Université Paul Valéry, ministère de la Culture. Et donc c'est à moi que revient la charge de l'honneur de vous présenter l'homme de l'Hérault, l'homme de la vallée de l'Hérault, qui est quand même sorti de la vallée de l'Hérault, puisqu'il y a une belle décennie maintenant de programmes en Espagne, en Andalousie, et qui a mobilisé, labouré cette vallée avec des programmes de fouilles, donc mobilisant des équipes pendant des mois durant pour fouiller des villas, des ateliers. Bon, c'est une dizaine de programmes hein, depuis une vingtaine d'années dans cette moyenne vallée de l'Hérault, avec comme thème central de ses recherches des questions qui tournent autour de l'économie, des productions et du commerce dans la Méditerranée occidentale romaine. Alors occidentale, parce qu'au départ c'était de l'Hérault, hein, pour passer en Andalousie, donc ça devient la Méditerranée occidentale romaine. Bon, c'est un des grands spécialistes de ces questions, donc il a toute légitimité pour les aborder. Les derniers grands programmes, donc je ne vais pas prendre la parole à sa place, hein, mais donc financés par le laboratoire d'excellence Archimède, donc qui est, mais je vous en prie, qui est dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Donc ça fait maintenant 8 ans que Montpellier dispose de ce laboratoire d'excellence, donc qui réunit plusieurs unités de recherche avec d'assez gros moyens financiers derrière, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé après évaluation de son bilan par un jury international. Donc on est très bien placé, donc on fait partie de ces recherches d'excellence au niveau international. Et dans ce cadre-là, plusieurs programmes de recherche ont été dirigés par Stéphane. En France, je les lis parce que c'est toujours des titres un peu longs, hein, sur archéologie de l'artisanat potier vinicole en Narbonnaise centrale, donc tout. C'est la coordination de tous les travaux menés depuis une vingtaine d'années dans la vallée de l'Hérault moyenne. Donc tout tourne autour de la production du vin et d'amphores dans cette Gaule narbonnaise. Et puis cette extension dont je vous parlais, hein, ce passage à l'international, à travers deux beaux programmes financés par le laboratoire d'excellence Archimède, donc qui concernent la production artisanale, l'économie et l'environnement en Bétique romaine. Donc là, on est parti en Andalousie. Et qui a été suivi d'un second programme, donc oléiculture et production d'amphores en Tur-d'Étanie romaine, un programme oléastro. Donc ce sont ces trois programmes qui tournent autour du vin, autour de l'huile, autour de la production, autour des ateliers qui vont fabriquer le contenant, hein, qui vont permettre le transport du vin ou de l'huile, que Stéphane a mobilisé ses équipes. Alors dans ces équipes, outre les moyens financiers, le LABEX a mis aussi des contrats doctoraux, et donc il a une grosse équipe de jeunes, dynamiques. Plusieurs thèses ont été produites. Au total, Stéphane a dirigé ou dirige une quinzaine de thèses, dont 9 déjà soutenues. Je ne parle pas des séminaires de recherche, je ne parle pas de toute cette animation. De la recherche à travers des ateliers de formation mobilisés dans le cadre de colloques, que ce soit à Madrid ou que ce soit le dernier en décembre encore à Séville. colloque co-organisé avec les universités partenaires, parce que je vais citer le LabEx Archimède, mais je pense à tous ces programmes développés en Espagne, son développement en partenariat avec les universités de Séville et de Cordoue, avec la Casa de Velázquez, et la force de... des équipes mobilisées, c'est qu'elles sont jeunes, c'est que les doctorants sont en responsabilité, sont mis en avant, participent à ces colloques, mais pas autant en tant qu'auditeurs, mais aussi au montage de ces colloques. Et donc, c'est une dynamique excellente qui est impulsée par, par Stéphane Monnet dans tout ce champ de l'économie antique en Méditerranée occidentale. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un... d'un des programmes qui a été financé, que j'ai volontairement mis de côté, donc qui est le programme, le titre est donné, hein, Autour du puits antique de Loribel à Pesnas. Là encore, un programme financé par l'ABEX Archimède, avec toute une équipe mobilisée de ces troupes de la vallée de l'Hérault.
Et d'ailleurs,
donc Stéphane, tu as la parole et je voudrais publiquement te remercier pour toute cette dynamique et ce dynamisme en mobilisant toute cette jeunesse. J'y reviens, je me répète, mais dans l'investissement dans la formation doctorale et dans le futur de la recherche française et en la plaçant parfaitement dans ce créneau de la Méditerranée occidentale romaine, où Montpellier est un des points forts dans ce paysage de la recherche. Voilà. Merci Stéphane.
Merci David. Alors, effectivement, le tropisme pour la vallée de l'Hérault, il est très fort. Et donc... Oui, il va réapparaître. Non, il y a un incident technique. Alors, je continue, je pense que le problème va être résolu. Donc, effectivement, le tropisme de la vallée de l'Hérault, on retourne toujours dans son berceau original. Et donc, la vallée de l'Hérault, c'est évidemment pour moi, et Pézenas en particulier, un territoire à la fois que je connais bien parce que j'y ai fait ma thèse et j'y ai fait mes premiers pas d'archéologue. Mais au-delà de ça, c'est aussi un territoire. Il y a des Picénois dans la salle, des amis Picénois, de la famille. Donc, c'est aussi un territoire extrêmement vivant, où on fait une recherche encore associative, entre amis, dans la bonne ambiance. Et ce puits, les résultats de la fouille de ce puits, donc a priori éloigné de mes considérations habituelles de recherche. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez exotique pour nous, bon, même si il y a beaucoup de données économiques dans ce puits, notamment au niveau du paléo-environnement. Mais ce puits concerne un site extrêmement particulier, auquel on tient beaucoup, toute notre équipe, parce que c'est là en fait qu'on a fait nos premières armes en fouille programmée en 2000. Alors, la DIA marche pas ? Il réinitialise. Bon, alors on va continuer, on défilera les DIA ensuite. Donc Pézenas, ça se trouve à 25 km de Béziers. Donc on est environ à 60 km à l'ouest de Montpellier. Le site se trouve à moins de 2 km de la grande voie nord-sud qui, depuis la voie domitienne à Saint-Tibéri, l'oppidum de Quessero, remontait vers la vallée de l'Hérault et, après avoir traversé l'Audève, montait le pas de l'escalette et se dirigeait vers Millau, Condatomagos, le marché dit confluent, Segodonum, la grande cité des Rutènes. Et donc cette voie, donc, c'est une des principales voies de Narbonnaise et elle a irrigué cette vallée de l'Hérault. Donc on est un carrefour géographique, on est dans un lieu, Loribel, à Pézenas, on est dans un lieu extrêmement ouvert, et vous allez voir comment les influences multiples méditerranéennes, mais aussi régionales, celtiques ou gauloises, se sont manifestées tardivement à la fin du Haut Empire. Voilà une photo aérienne du site, donc il se développe sur une parcelle en légère pente vers une rivière, le Rio Tor, que l'on aperçoit ici, c'est un affluent de la Peine. Donc le site est ici, et donc il est occupé, donc ça c'est une partie du site, le centre du site, la plus conséquent, il est occupé entre la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, probablement au début du règne d'Auguste, et le milieu du 3e siècle. Alors les fonctions de ce site sont multiples,
On a de l'accueil des voyageurs, donc qui suppose la proximité d'une voie importante, probablement une voie secondaire qui se détache de la voie nord-sud qui se trouve à 2 km. Des productions artisanales multiples, notamment la production d'objets en os. On produit de l'acier sur le site, c'est une grande nouveauté. C'est la première fois qu'on le met en évidence sur un site d'époque romaine. Et c'est un lieu de vente de produits divers et variés, avec une probable auberge, des bains, et un grand moulin hydraulique qui produisait de la farine pour une population probablement nombreuse qui ne résidait évidemment pas sur place parce qu'on n'a pas de traces de logement. Il y a également un aqueduc de 2 km de long dont on connaît, on a fouillé un petit tronçon. Alors les grandes quantités, la diversité, la richesse des mobiliers antiques, céramiques, petits objets, monnaies, on a de l'ambre, on a des vases des fragments de vases en pierre donc, qui ont été retrouvés pendant cette fouille, sont évidemment sans commune mesure avec ce que l'on observe habituellement sur les établissements ruraux de cette partie de la province de Narbonnaise, même sur les villas, on en a fouillé deux grandes à moins d'une dizaine de kilomètres, et pourtant on a réalisé de nombreuses fouilles dans la vallée de l'Hérault depuis 25 ans. Alors en fait, les tiges qui ont été mises au jour pourraient en fait correspondre à l'extrémité excentrée d'une agglomération antique de plusieurs hectares se trouvant sur la rive droite de la Peine, en vis-à-vis de l'oppidum protohistorique de Saint-Siméon. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a l'impression que le site a basculé vers la rivière probablement à la fin du IVe siècle, le site perché protohistorique, donc gaulois, et que l'occupation s'est installée sur la rive gauche, dans la plaine. Le problème, c'est qu'on a un château 18e avec un parc boisé qui nous empêche d'explorer plus avant donc, cette partie supposée de l'agglomération antique. Alors, le document matériel le plus intéressant consiste en plusieurs fragments non jointifs d'une plaque en bronze, recueillis entre 1995 et 2002. Donc, on doit la découverte des deux premiers fragments à Georges Cabrol, qui est au premier rang, et c'est grâce à Georges que nous avons pris connaissance de l'existence de ce site et qu'une fouille a été mise en place à partir de l'année 2000 avec le concours de la communauté de communes de Pézenas et la commune de Pézenas. Alors, cette plaque, elle est datée de la seconde moitié du premier siècle avant, et 5 de ces 7 fragments ont été retrouvés dans une décharge domestique du milieu du IIIe siècle. Donc l'étude du texte a été réalisée par Michel Christol, un professeur à la Sorbonne. Arrachée de son support, cette plaque a été brisée puis dispersée, puisque les deux autres fragments, donc les deux premiers trouvés par Georges, ont été trouvés à plus de 50 mètres de la zone de décharge du milieu du IIIe siècle. Alors la plaque livre une liste de noms gaulois, les témoins d'un acte officiel, ainsi que la mention Legatei, sous une forme archaïque latine, donc qui clôt le document. Et c'est cette forme archaïque latine et l'onomastique qui permettent de dater cette plaque aussi anciennement. Alors il s'agit à l'échelle des Gaules d'un document exceptionnel, peut-être un document qui concerne deux collectivités territoriales, deux agglomérations distinctes, et donne aux ressortissants de ces dites entités des droits communs. Est-ce que c'est une table d'hospitalité? On n'en est pas assuré. Il faut développer des comparaisons avec les documents à l'échelle de l'ensemble de l'Empire. Alors à elle seule, cette plaque qui était fixée sur un bâtiment confirme bien le statut particulier de ce site. La fouille programmée du puits en mars 2015, donc après une interruption de presque 10 ans, on a recherché des financements pendant cette longue période, parce que fouiller un puits, ça coûte beaucoup d'argent et c'est une logistique très importante à mettre en place. Donc cette fouille a permis finalement d'achever l'exploration du site de l'Oribel. Alors pour tout vous dire, on était très excités et on pensait que dans ce puits pouvaient se trouver des fragments de la plaque en bronze, puisque le puits se trouve entre les deux points de découverte. Donc le cheminement des personnes qui ont cassé cette plaque probablement passait à moins d'un mètre du puits. Bon. Alors la fouille a été réalisée par l'association Archéopuis, dirigée par Jean-Marc Fémenias, par l'UMR 5140 ASM avec une équipe d'étudiants et le club archéologique de Montagnac-Pézenas. Et cette opération a été financée par cette association, le conseil départemental de l'Hérault et l'ABEX Archimède de Montpellier. D'un diamètre interne de 90 cm, le puits avait une profondeur de 23 mètres. Les seaux de sédiments qui ont été remontés du puits étaient tamisés au fur et à mesure et les mobiliers nettoyés et isolés pendant les 5 jours de fouille, donc sur une table mise à disposition avec des casiers percés d'orifices. Et ça a permis comme ça de traiter très très rapidement et d'isoler évidemment l'ensemble de ce mobilier. Sur les 13 premiers mètres de la fouille, le puits a livré des niveaux de remblai et à la base de ceci, donc une margelle la margelle du puits. Ensuite, les niveaux de fonctionnement se succèdent jusqu'à un bouchon de bloc de basalte qui se trouve ici, qui est à environ moins 15 mètres, à 18,50 mètres, excusez-moi. Et sous ce niveau, ont été trouvées trois couches superposées avec des dépôts intentionnels. Et enfin, à la base de ceci, à moins 21 mètres de la surface, un imposant dépotoir domestique qui reposait sur le fond du puits. Alors la datation de ces comblements, donc, je vous rappelle, il y a 23 mètres de comblement, a été apportée par 18 monnaies trouvées dans les différents niveaux de comblement. Ça a permis de caler chronologiquement la mise en place de chaque ensemble et en accord avec les datations fournies par les céramiques très très nombreuses. Ces niveaux superposés sont datés entre le milieu du IIe siècle pour les plus profonds et le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors les niveaux ont livré un peu moins de 500 vases et d'amphores, dont 150 complets, essentiellement des cruches destinées au puisage. S'ajoutent à ces mobiliers de la vaisselle en verre, une vingtaine de vases cassés, ainsi qu'une dizaine de lampes à huile. Un apport original des fouilles de ce puits consiste en la mise en évidence d'une pratique d'écriture particulièrement développée sur le site, quelque chose vraiment qu'on n'avait jamais vu, puisqu'on a recueilli plus de 80 graphites sur céramique. Alors, ces graphites en céramique sont des textes latins en cursive. Ils peuvent comporter des symboles ou des chiffres. Et ils sont en cours d'analyse. Ils viennent d'être recensés totalement et catalogués par Morgan Andrieux, donc, qui était postdoc au Labex Archimède, qui travaille sur les graphites de Gaulle-Narbonnaise. Donc, ils sont en cours de lecture, mais on a déjà des résultats fort intéressants. Par exemple, ici, à Prisum, j'appartiens à Apris, ou bien... ici, le nom, un nom grec, Stratoneikos, qui a utilisé une écriture hellénistique, un alphabet grec, avec des tracés dits lunaires, et sous ce nom apparaît le début d'un abécédaire, ABI. On a également cette très très belle cruche, donc à embouchure trilobée, avec des lettres ici, pour un texte qui se laisse lire très difficilement, on n'a pas encore trouvé d'interprétation, et ici des tridents marins avec un filet. Donc, évidemment, on ne connaît pas précisément le sens de ces tridents qui sont, je crois qu'il y en a une quinzaine sur les vases. Plus de 250 objets en bois ou en cuir ont été mis au jour, dont beaucoup d'un intérêt vraiment exceptionnel. Leur état de conservation s'explique par le caractère anaérobie du contexte, c'est-à-dire par l'absence d'oxygène, à laquelle s'ajoute l'absence de lumière. Donc, les objets étaient neufs. Sauf évidemment pour ceux qui étaient cassés. Ce sont des objets qui ont été jetés là parce qu'ils étaient hors d'usage, mais ils ont un état de conservation totalement exceptionnel. Alors il y a notamment deux seaux en bois, des paniers tressés en vannerie qui contenaient de la poix, des fragments de meubles, un châssis de fenêtre, une semelle, des peignes, des aiguilles, des quenouilles pour le tissage, des chevrons, des vases en bois tourné, des éléments appartenant à des assemblages d'objets manufacturés, et des éléments de machinerie. On a des pièces d'engrenage, on a des morceaux de poulie, on a donc des choses tout à fait extraordinaires qui sont en cours d'étude. 5 tablettes à écrire, dont 2 portent des traces de chiffres et de lettres, en bas à droite, constituent des documents exceptionnels à l'échelle de la Gaule méridionale. C'est des documents très très rares, donc, qui renforcent le sentiment que nous avons d'une population locale qui maîtrise l'écriture. On est vraiment dans le... Là, on est vraiment au cœur de ce phénomène, des graphites en cursive, des tablettes à écrire, ce texte sur plaque de bronze donc affiché sur un bâtiment. Manifestement, donc, on a affaire à une population lettrée qui est tout à fait capable d'écrire. Il ne faut pas non plus surestimer le degré d'alphabétisation, mais enfin, il est quand même, c'est quand même quelque chose qu'il faut relever. Alors, des tablettes, ces tablettes sont en bois de citronnier, en buis ou en hêtre, et ces objets étaient courants dans l'Antiquité. On en a notamment retrouvé évidemment à Pompéi, à Herculanum, et puis récemment au cœur de la City à Londres. C'est le plus vieux document avec une écriture latine trouvée en Angleterre, mais finalement très peu sont parvenus jusqu'à nous parce que évidemment c'est du bois et ça ne se conserve pas à l'air libre. Le mobilier métallique ou en os comprend notamment 3 situles, donc ce sont des chaudrons en alliage cuivreux, une applique de mort équestre en bronze en haut à gauche. Des restes d'une balance en fer, des gaffes, des grappins, 5 clés avec des chaînes, des sonnailles, des outils en fer, donc un marteau, une herminette, une hache, avec encore l'emmanchement, donc avec encore le bois emmanché, et la présence de déchets en tout genre, de restes d'animaux, mais surtout d'amas de moûts vinicoles dans les niveaux dits de fonctionnement, donc au-dessus du bouchon de pierre. Ces données indiquent que l'eau qui pouvait être puisée dans le puits était extrêmement souillée et ne pouvait être utilisée dans un cadre domestique pour la consommation humaine, même animale. Cette eau, elle est vraiment polluée et puis elle contient également des restes humains. Alors ce dépôt volontaire particulier qui se trouve donc à moins 18 mètres de profondeur sous le bouchon en pierre, donc en voici une photographie prise sur le vif par Jean-Marc. Donc on avait une certaine pression parce que, outre la pression de l'eau au fond du puits qui est montée, le temps nous était compté, Jean-Marc avait des engagements et on avait des problèmes techniques. Au-delà de 13 mètres, il a fallu installer un groupe électrogène, une pompe supplémentaire. Donc bon, ça a été une belle aventure archéologique mais aussi technique. Alors ce dépôt donc, repose sur un dépotoir domestique donc, sur lequel on reviendra. Mais il se compose donc de trois niveaux principaux, ce qu'on appelle des unités stratigraphiques. C'est des couches archéologiques qu'on a distinguées donc de 1 à N. On part de tout en haut du puits, de 8000 jusqu'à 8020. Et là, on est dans les niveaux 8016, 17, 18. Donc un lot de céramique était déposé avec un vase en albâtre, donc un vase en roche tourné, des restes de bœuf, d'ovin et de porcin, et deux situles en alliage cuivreux, formant un ensemble particulier en raison de la présence de trois tablettes en plomb, portant des textes en écriture latine cursive. Alors on compte 20 vases en céramique, dont 15 sont entiers, les autres brisés. Je vous ai mis les dessins parce que sur les photos on ne se rend pas bien compte, mais seuls 5 vases peuvent être considérés comme liés au puisage. Ils se trouvent ici. Les autres vases ont des cruches à col étroit, de la selle culinaire ou de la vaisselle de table. Tout ceci est parfaitement impropre pour aller chercher de l'eau à 18 mètres de profondeur. Donc c'est évidemment quelque chose qui a été déposé là, et qui a une dimension votive importante. Les deux situles mises au jour avaient été déposées ouvertures vers le haut. Il s'agit, comme le montrent les réparations visibles sur leurs panses, d'objets ayant connu une longue utilisation avant de rejoindre le fond du puits. Il est probable que les dédicaçants, les personnes qui ont écrit ces textes sur les tablettes, sur les lamelles de plomb, en réalité, soient les propriétaires de ces objets qui ont été déposés. C'est une façon d'affirmer sa présence. Alors, trois tablettes constituées donc d'une feuille de plomb pliée ont été mises au jour. Elles ont révélé, après un nettoyage et une restauration approfondie donc, qui a été réalisée dans un second temps, un laboratoire de Toulouse Materia Viva, des textes latins en cursive, inscrits à la pointe métallique. Ici, de tablettes de malédiction ou d'exécration, parfois désignées aussi comme tablettes d'envoûtement, et qui sont destinées à porter malheur à une ou plusieurs personnes nommément désignées. Alors, on en connaît environ 2000 dans le monde gréco-romain, datées entre le 6e siècle avant et le 6e siècle après Jésus-Christ. Les textes à vocation magico-religieuse peuvent comporter un ou plusieurs sorts, donc jetés contre une ou plusieurs personnes, le nom de la personne à atteindre ou des personnes à atteindre, un nom de divinité, en général chtonienne, donc soit ce sont les puissances infernales, soit ce sont des dieux qui ont un pouvoir sur les divinités chtoniennes et donc sur le monde souterrain. Et on demande également à travers ces textes d'apporter le malheur. Et puis on peut aussi avoir un lieu qui est mentionné, le lieu, le nom du sanctuaire ou le nom de l'agglomération dans laquelle on se trouve. Alors dans les Gaules, c'est ce qui est extrêmement intéressant avec ces tablettes qui sont très nombreuses, c'est le territoire qu'on a le plus livré en Europe. Ces tablettes peuvent porter des textes gaulois ou plus fréquemment latins. Donc du texte gaulois écrit en latin ou du texte latin écrit en latin. Comme le résumait parfaitement le grand savant Camille Julian, il s'agit avec ces objets de mettre en rapport, par l'entremise du puits, les gens d'en haut et les dieux d'en bas. Alors ces tablettes, comme je vous l'ai dit, ont nécessité un travail de nettoyage et de restauration très lourd, qui permet aujourd'hui à Michel Feugère et Pierre-Yves Lambert d'en établir le texte. C'est encore un travail en cours de réalisation, on a pris du retard. Et enfin, dans un deuxième temps, de le traduire, ce qui n'est pas évident. Parce qu'il y a des rayures, il y a des coups qui ont été portés, il y a des rayures volontaires ou involontaires. Mais donc on commence à arriver à des résultats. Et puis ensuite, il y a toute l'analyse grammaticale, il y a des fautes de latin. Donc il y a des usages vernaculaires, c'est-à-dire des expressions, des mots qui ressortent du Languedoc, enfin de l'actuel Languedoc, de la Narbonnaise centrale. Il y a des parlés, il y a des formes de latin vulgaire, avec des mots gaulois, des mots d'origine gauloise, des mots qui peuvent être d'origine également grecque. Et donc tout ceci, évidemment, du point de vue de la linguistique, c'est extrêmement compliqué. Et donc, heureusement, on a Pierre-Yves Lambert, qui est un très grand savant, un spécialiste de cette philologie extrêmement particulière. Alors, quelques données peuvent quand même être apportées. Quelques traductions ont été réalisées. Donc, la tablette que vous voyez en haut porte très clairement un texte d'exécration. Elle commence par « Quel que soit celui qui m'a fait du tort, quel que soit celui qui... » On le saura au prochain épisode quand ils auront avancé la traduction. Et il se termine par « Quiconque a été au courant ». Et donc, ça clôture la malédiction en y associant un complice. Et donc, entre ce début et cette fin de texte, on a des détails, probablement le nom d'un, peut-être le nom d'un dieu, et puis le nom de la personne ou des personnes visées. Alors, la tablette en forme de phallus semble révéler la proximité du sanctuaire, puisqu'est cité devant le dieu, Ante Deum, et à la fin, la statue Signum. Donc, ça peut signaler la proximité immédiate d'un sanctuaire. Et puis l'autre, le côté verso du phallus, et malheureusement pour l'instant le texte reste à établir, il y a des questions très compliquées de lecture. Alors l'une des trois tablettes inscrites, donc c'est la partie droite de la tablette de gauche, mais aussi une feuille de plomb trouvée dans les niveaux de comblement abandon du puits, donc beaucoup plus haut, conserve les traces de petits coups assez violents, mais non perforants, qui ont été portés avec un objet pointu, peut-être le stylet, un geste qui trouve son origine dans les pratiques magico-religieuses des Gaulois dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, de nombreux disques perlés, disques étrusques du sanctuaire du Mas de Kos à Latte, ont été martelés et abîmés avant d'être offerts à la divinité, probablement Apollon. C'est intéressant parce que par cette action de martèlement, on sait que le dédicant s'appropriait en fait le pouvoir sur l'individu qui était visé à travers le texte. Alors, au-dessus du niveau 8018, la couche 8017 a livré une quatrième tablette, dont le texte là est extrêmement compliqué à lire, tandis que dans le niveau supérieur de cet ensemble a été mis au jour un troisième situle et des vases en céramique. Un bouchon de blocs de basalte couronnait ensuite ce dernier niveau. Donc voici l'emplacement du situle et voici l'emplacement de la tablette en blonde. Et vous avez... sous ces deux niveaux, le dépôt avec les trois tablettes. Alors, dans notre région, deux autres tablettes sont connues. La première, lue par Robert Marichal, comporte 300 caractères latins de belle facture. Elle a été mise au jour à 11 mètres de profondeur dans un puits de l'oppidum de Magalas, qui se trouve à 15 km au nord-ouest de Pézenas. Il est daté, ce texte, du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, le texte a été bien lu, de même que le plomb disparaît et tombe, qu'ainsi tombe la jeunesse, les membres, la vie, le bœuf, le grain, les biens de ceux qui m'ont fait du tort, à savoir Asuetemos, Segundina, qui l'a porté, donc sa mère, Vereste et Arus, Amarantis, et je vous interdis Dieu, tout ceci pour les sortilèges, tant de célébrer les Massitladia, de chanter en chœur le chant des morts, et le chant dont le nom commence par Col, et là il y a une interruption du texte. Le second document servait de couvercle à une tombe du 1er siècle après Jésus-Christ, de l'hospitalier du Larzac, donc on se trouve entre Lodève et Emio. Elle est écrite en langue gauloise et comporte 57 lignes. Donc c'est un véritable monument linguistique. D'après Pierre-Yves Lambert, le texte renvoie à un groupe de 12 femmes ayant fait agir une sorcière, Severa Tertionica, pour jeter de mauvais sorts sur une personne et pour influencer des juges dans un procès contre elle. Il s'est passé un deuxième épisode. Cette personne... donc contre qui avait été jeté ce sort, pour retourner ce mauvais sort, a écrit un message à la déesse Adgosna et le dépose dans une tombe pour qu'il parvienne à la déesse. Une deuxième personne ayant eu connaissance de ce message et croyant à sa puissance magique, déterre cette tablette, efface une partie des premières inscriptions, qui ont quand même été lues par Pierre-Yves Lambert, et adresse un nouveau message pour se libérer d'autres magies, et enfin replace la plaque dans la tombe. Donc vous voyez un petit peu le scénario, ces tablettes, pourquoi on les enfouit, elles sont systématiquement dans des lieux fermés, profonds, inaccessibles, parce qu'elles ont une puissance magique très forte et on veut éviter qu'elles soient sortis et que les sorts soient retournés contre la personne qui les a provoqués. Et là, on a vraiment l'exemple typique de ce, de ces superstitions qui sont attachées à ces documents. Là, on touche vraiment le quotidien des Gallo-Romains. On est vraiment dans leur intimité. C'est vraiment, ça échappe à tout ce qu'on sait évidemment de la grande religion romaine. Alors finalement, la présence des tablettes inscrites en plomb est en elle-même un critère discriminant pour conforter l'interprétation magico-religieuse de cet ensemble exceptionnel. Les documents de ce type sont en effet fréquemment trouvés dans des contextes associés à l'eau, et l'on peut donc supposer une activité religieuse dont la réalité ressort souvent du contenu textuel des plombs. Alors, en ce qui concerne les contextes de découverte, il peut s'agir de sources thermales. Hein, on en connaît des tablettes à Amélie-les-Bains, à Chamalières, à Rome, depuis, comme au Mans, à Château-Meillan, ou plus près de nous, à Magalas, ou encore de mares ou d'étangs dont la fonction religieuse est avérée, comme par exemple au Mans, où a été découvert un étang sacré avec plus de 200 tablettes, malheureusement anépigraphiques. Mais notamment dans cet étang ont été trouvées des feuilles de plomb repliées qui contenaient des poils d'origine animale, des poils humains, des plumes, tout comme l'exemplaire mis au jour à Château-Meillan. Sur cet ancien oppidum gaulois, donc la fouille de Sophie Krotz a révélé donc, dans un puits un dépôt exceptionnel de bronze, donc d'éléments de statue, associé aux éléments métalliques de même nature appartenant à un char de transport préalablement démonté avant son enfouissement au IIIe siècle après Jésus-Christ au fond du puits. Et dans les niveaux supérieurs du puits a été trouvée cette tablette roulée contenant donc des poils animaux, des poils humains et des végétaux. Alors à présent, il nous faut résumer les acquis et les hypothèses concernant la nature et la fonction du puits de Lauribel. Alors mise en place dans la seconde moitié du 1er siècle avant pour alimenter en eau le site, le puits a été curé vers le milieu du 2e siècle et abandonné comme point d'eau potable par la population résidant ou fréquentant le site. Les déchets domestiques retrouvés à sa base peuvent symboliser ce changement de vocation radicale. Ce sont des ordures domestiques donc, qui caractérisent une population ou un groupe de population. Un ensemble de couches à caractère magico-religieux a ensuite été installé, un premier ensemble avec trois tablettes inscrites, puis un second niveau avec une quatrième tablette, et enfin un dernier niveau avec un situl en alliage cuivreux et des vases. Ces niveaux ont été scellés par un dépôt de blocs de basalte. Ensuite, le puits a été utilisé pendant presque un siècle. Il a servi à puiser de l'eau, ça c'est une évidence, hein. On a trouvé des cruches à puiser, mais pas seulement. Mais cette eau était, rappelons-le, totalement impropre à la consommation. Le puits a reçu des déchets variés pendant toute sa phase d'utilisation, et en particulier des dépôts extrêmement denses et abondants de moût de raisin, issus de la production locale de vin, ainsi que des restes humains fragmentés. Plus de la faune, plus des ordures de tout type, des fragments de bois, des restes végétaux. Finalement, il est donc fort probable que la vocation magico-religieuse du puits ait été entretenue par les personnes qui fréquentaient Lauribel, l'eau puisée pouvant être utilisée pour des usages liés à son caractère spécifique. Beaucoup des vases entiers retrouvés dans ces niveaux ne sont pas des vases à puiser, et ils semblent donc avoir été volontairement jetés dans le puits, certains accompagnés de graphites, qu'il nous faut déchiffrer, il y a beaucoup de symboles, mais nous savons qu'une partie de ces symboles sont des symboles qu'on peut retrouver dans des sanctuaires, comme par exemple à Alba la Romaine, où on a des graphites sur céramique qui représentent des feuilles, et on a également des graphites forme de feuilles sur certains vases. Tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas écrire. Peut-être une partie de la population a fait des vœux ou des offrandes et a tenu à symboliser cette offrande par un graphite sur un vase. Alors l'étude de la faune a été réalisée par Audrey Renaud, qui est présente dans la salle, et que je remercie pour son gros travail d'analyse et d'inventaire, parce que c'était un travail qui a été réalisé sur plus de 2500 restes de faune. Dans son très long texte, donc son très longue et belle étude qu'elle nous a remise, je retiendrai la partie la plus intéressante pour nous, hein, au-delà de l'analyse de l'ensemble des espèces qu'elle a analysées, qu'elle a vues. Alors, selon elle, une série de crânes plus ou moins complets offre une lecture directe de la pratique d'abattage à travers l'observation répétée de coups donnés sur la partie frontale et à l'arrière du crâne des animaux. La morphologie de ces marques sous-entend l'utilisation d'outils de différentes formes et par extension d'objectifs différents. Ainsi, les enfoncements dorsaux donc sur le front, ce que vous voyez, laisse entrevoir un objet non tranchant, donc un objet contondant, permettant l'étourdissement ou l'assommage de la bête, facilitant ainsi la mise à mort, à proprement parler, qui a été effectuée à l'aide d'une lame large et épaisse, probablement une hache, dans la région occipitale, donc au point de contact du cou et de la tête. Si de tels instruments à double vocation, une partie contondante, l'autre tranchante, ont pu être observés sur les bas-reliefs romains mettant en scène des pratiques sacrificielles, on a l'exemple très connu de l'autel du temple de Vespasien à Pompéi, et donc dans le cadre de pratiques collectives publiques avec le bovin comme principale victime, leur utilisation en dehors de la sphère religieuse est plus que probable, mais reste à attester, elle n'est pas attestée par les études archéo-zoologiques. A minima, elle pourrait indiquer, donc, selon Audrey, la présence d'un opérateur spécialisé dans cette activité de mise à mort, peut-être un victimaire, c'est-à-dire un prêtre sacrificateur, si évidemment on privilégie l'interprétation cultuelle pour l'ensemble des comblements de ce puits. Ce qui n'est pas assuré, puisqu'on voit qu'il y a aussi des offrandes domestiques, personnelles, donc peut-être des choses, des éléments qui viennent d'un sanctuaire, peut-être des éléments qui viennent de la vie quotidienne des habitants, de la population environnante ou des fidèles qui fréquentaient ce sanctuaire. Alors, ce qui frappe de prime abord, c'est l'association unique dans un puits de dépôts de vases ou d'objets en métal qui trouve son origine dans le monde celtique à la fin du second âge du fer. Et on peut citer les puits connus de Toulouse et surtout d'Agen, mais ils ne contiennent pas tous des dépôts de vases métalliques, une partie en contient, et de tablettes inscrites en plomb, renvoyant à des pratiques magico-religieuses très largement attestées dans le monde gréco-romain, puis finalement largement adoptées avec l'alphabétisation de l'époque romaine dans les Gaules, au point qu'une partie des dédicants, les Gaulois d'origine, donc écrivent en gaulois, mais en caractère latin. Le caractère singulier de ce puits tient également à sa chronologie tardive. On est là, en effet, à la fin du Haut Empire, dans le troisième quart du IIe siècle après Jésus-Christ. Tout se passe comme si, finalement, la population locale ou de passage avait conservé des pratiques ancestrales celtiques, remontant à minima au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc l'enfouissement de vases en métal, usant pour communiquer avec les divinités du monde souterrain des invocations et des sorts écrits en latin, inscrits sur des feuilles de plomb, certaines étant martelées. Finalement, ce puits de 23 mètres de profondeur, seule structure intégralement conservée de l'établissement de Loribel, qui était très arasé, nous éclaire en grande partie sur la fonction de ce site si particulier, en fait, en négatif. On a ce puits toute l'histoire d'un siècle d'occupation sur cet établissement. Il est en effet probable que nous nous trouvions, en fait, à proximité immédiate de l'un de ces innombrables sanctuaires vernaculaires qui parsemaient les campagnes de Gaule narbonnaise et trouvaient leurs origines dans des pratiques et des usages largement ignorés par les textes littéraires anciens. On est peut-être loin des sanctuaires classiques de tradition gréco-romaine, comme on peut trouver notamment autour des grandes agglomérations, et on a peut-être affaire à un sanctuaire un peu spécifique qui plonge ses racines dans le monde celtique. L'oppidum de Saint-Siméon et la grande nécropole de Saint-Julien se trouve à quelques centaines de mètres au sud. Donc on est quand même dans une ambiance un petit peu particulière. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je remercie l'équipe de fouilles qui est présente pratiquement en totalité. Et puis ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans l'investissement de 19 chercheurs, donc des chercheurs confirmés, également des étudiants de Master 2, des doctorants, donc toute une équipe. Et vous voyez que quand on fouille un puits, on se retrouve avec une quantité de mobilier absolument incroyable et avec des problématiques très diverses, avec des spécificités liées à la diversité des matériaux qui nous obligent à faire appel à donc une cohorte de collègues. Et c'est le cas ici, donc vraiment je les remercie, m'ont fourni des informations, des conclusions provisoires donc, qui ont permis de vous présenter cette première synthèse qui, j'espère, dans un an et demi, sera totalement aboutie. Voilà, je vous remercie.
Arc-
Archéo, le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité au Musée Fabre, le jeudi sur Divergence FM.
Les archéologues, les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfouies et enfouies.
Une antiquité sportive sera le thème de cette 10e saison.